je crois qu'on va avoir beaucoup à débattre ce soir. Finalement, on a deux exposés à la fois très différents et souvent convergents sur beaucoup de points. Alors, Philippe Madès, ce qu'il y a de notable dans votre exposé, c'est que vous arrivez à éviter totalement la langue de bois. La langue convenue qui est souvent la nôtre, et c'est très notable, bien que il y ait de nombreuses références à Lacan, à la fois parfois explicites, souvent implicites, mais qu'on peut suivre, qu'on connaît, disons, qui nourrissent vos formulations, qui sont les vôtres. Alors, Irène Tuton, vous avez fait, vous, un grand parcours dans les textes et les formules de Lacan, à des dates différentes, et alors ça donne effectivement de multiples questions possibles à discuter. On va sûrement pas venir à bout de toutes les questions présentes dans ces deux contributions. Alors, je voudrais d'abord signaler... J'introduis un peu la discussion avant de passer. J'introduis un petit peu, je vais poser une question à chacun d'eux et après je passerai la parole à la salle. Alors je voudrais d'abord noter la convergence sur des points dans les deux exposés. Alors il y a un premier point de convergence. C'est qu'on n'a pas de questions sur ce qu'est un analysant. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année. On sait ce qu'est le travail analysant et on le dit. On va voir les phrases exactes qui le disent tout à l'heure, si vous voulez. Bon, alors ça, c'est déjà une question, c'est une convergence et c'est une question puisque nous avons intitulé « Qu'est-ce qu'un analysant ?» et que le présupposé, c'est qu'il y a un problème. Il y a au moins une question. Bon. Donc, je le note. En tout cas, voilà, on définit l'analysant par son travail et on sait ce qu'est ce travail. Le deuxième point sur lequel vos exposés se retrouvent, ils ne disent pas la même chose, mais ils se retrouvent sur le thème, c'est sur la croyance, la question de la croyance, comment ça s'ajuste, le thème de la croyance avec le terme que Lacan a mis à la place de la croyance, la supposition. Tous les deux, vous avez développé un peu ce point. Et puis alors, il y a un autre thème que vous prenez tous les deux. Quelle est la différence entre l'analysant dans la cure et l'analysant hors de la cure? Lacan nous a... pas habitué, mais enfin nous a permis de parler de l'analysant hors de la cure, puisque lui-même se dit analysant. Il ouvre son intervention à la télévision en expliquant sa position d'analysant à partir de son écriture du discours. Et il est vrai que dans la proposition de 67, notez-le, il n'avait pas encore écrit la structure du discours analytique. Il était en train de faire quelques pas en direction de la structure qu'il a écrit après. Alors, ces trois points, on pourra y revenir au gré de la discussion et de vos questions. Je vais poser une question à chacun, et je vais poser une question sur ce qui est propre à chacun. Alors, je commence par Philippe Madès. Vous nous avez bien expliqué les paradoxes de l'analysant, et que... au fond, il est trompé, ce pauvre sujet qui arrive chez l'analyste. Il s'attend vraiment absolument pas à ce qui va lui arriver. Et il est en attente de recevoir la vérité et peut-être même le savoir. Et puis finalement, il ne va pas la recevoir et il va falloir qu'il travaille. Et donc, comme vous dites fort bien, c'est votre définition de l'analysant, passer du désir d'acquisition à la production du savoir. Et analysant, on le devient nécessairement, puisqu'on ne l'était pas nécessairement. C'est ça, bon. Alors, bon, c'est assez amusant. Vous allez même jusqu'à dire, il attend que l'analyste soit analysable. Alors là, vous forcez un petit peu. Hein. C'est bien de forcer parce que ça donne, ça permet de saisir l'idée, mais c'est quand même un petit peu un forçage parce que il n'attend pas que l'analyse devienne analysant, il attend des interprétations. C'est pas la même chose. Hein. Il attend des interprétations et les interprétations, c'est pas délivrer le savoir ni le produire d'une certaine façon. Enfin, bon. Alors la question. Ben la question. Vous marquez bien un seuil, hein, vous marquez un seuil qui marque le passage au producteur, à l'analysant producteur de savoir. Et la question, finalement, c'est celle qu'a posée la dernière fois Sidi Ascofaré dans la discussion et qu'on n'a pas développée, qui est restée comme ça. Sidi demandait, est-ce que... la fin des entretiens préliminaires que Lacan a marqué comme le seuil d'entrée dans l'analyse, est-ce que la fin des entretiens préliminaires, c'est l'entrée dans le discours analytique ? Ou est-ce que l'entrée dans le discours analytique, c'est plus tard pour l'analysant ? Hein ? C'est ça. Donc, c'est ça la question. Est-ce que le seuil dont parle Lacan quand il prescrit les entretiens préliminaires, est-ce que c'est à la fin des entretiens préliminaires ou est-ce qu'il y a toute la période où l'analysant, celui qu'on appelle quand même l'analysant, l'analysant prend la mesure de comment il s'était trompé. Hein, et il attend, ça ne vient pas et à un moment il viendra se mettre au travail. Alors je vous pose la question, quelle est votre idée personnelle là-dessus ? Le seuil, où est-il ? Selon chacun, c'est une question que chacun peut se poser. On peut se demander qu'est-ce qu'en pensait Lacan, il faudrait le déduire parce qu'il ne l'a pas dit explicitement, et ce que chacun en pense d'après son expérience. Mm-hmm. On n'est pas obligé de tous le dire, mais... Mm-hmm. Mais enfin bon, voilà la question que je vous pose. Hein. Alors, Irène, je vais vous poser une autre question sur un point qui n'est pas... qui ne se retrouve pas dans l'exposé de Philippe Manet, qui est donc propre à votre exposé à vous, et qui provient de ce chapitre dans lequel vous vous êtes embarqué, je dirais, et qui s'intitulerait « L'acte et le symptôme ». Hein ?
Bon. L'acte symptomatique.
Et au milieu, l'acte symptomatique. Ce qui ne dit pas que tout symptôme est un acte symptomatique.
Hein ? Non.
Bon. Alors... en tout cas, acte et symptôme, on pourra rediscuter du thème après si vous voulez, mais ça vous mène à des définitions de ce que fait l'analyste que j'aimerais que vous précisiez expliquiez,
oui.
Parce que... l'analyste, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse faire. Il y a du laisser-faire chez l'analyste, mais enfin, laisser-faire, c'est assez éloigné de l'acte. Et puis, il accuse réception.
Oui.
Il prend acte, dites-vous. Mm-hmm. Sans en rajouter, dites-vous.
Particulièrement pour l'interprétation.
Attendez, laissez-moi finir ma question. Laissez-moi finir ma question. Et alors, vous dites, eh bien, en accusant réception, en prenant acte sans rien rajouter... Il souligne la jouissance et permet de faire apparaître la jouissance. C'est magique.
Je parlais de l'interprétation.
Dites une interprétation qui serait une interprétation qui se borne à prendre acte, ferait apparaître la jouissance. Expliquez-moi ça parce que vous devez avoir une idée.
Oui.
Donc expliquez-la nous. Voilà, c'est mes deux questions pour démarrer, et puis après, on passera aux questions de la salle. Je vous donne la parole.
D'accord.
Hein, allez-y, pendant ce temps, Irène réfléchit.
Bon, donc, c'est la question attend une réponse personnelle. Alors, je dirais que, et analysant le sujet, enfin, au moment où les entretiens préliminaires sont finis. je vais essayer de,
d'accord.
Je vais essayer de dire pourquoi. Quand j'ai travaillé là, sur ce texte, effectivement, alors je ne me l'étais pas posé la question comme vous me la posez, mais je m'étais dit, effectivement, quand est-ce qu'on commence à être analysant ? Et puis, je repensais à toutes les étapes de l'analyse, tous les mouvements, tous les changements qu'il y a. Et je me disais, non, mais là, on n'est pas analysant. Ah ben non, mais là, on n'est pas analysant. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, en analysant, quand on a fini l'analyse, non, c'est pas possible. Donc, en fait, parce qu'il y a toujours, il y a toujours de la perte, en fait. Et donc, effectivement, il y a toujours un moment donné où on saisit quelque chose. Voilà, ce qui fait que finalement, bon, alors, je ne sais pas si c'est juste, mais je ferai cette réponse, oui, en analysant quand les entretiens préliminaires sont finis, même si il y a toujours de la tromperie, même s'il y a toujours. Voilà.
Bon, ben voilà une réponse précise qui, je dois dire, est tout à fait convergente avec la mienne. Puisque. Mais pas pour les mêmes raisons. Peut-être. Enfin, j'y arrive autrement. Je pense en effet que quand. Les entretiens préliminaires sont finis, on est analysant, et donc c'est l'entrée dans le discours analytique. Hein ? C'est l'entrée dans le discours analytique. Parce que, en fait, les réponses qu'on fait, on ne peut pas la fonder seulement sur l'examen ou le souvenir qu'on a dans sa propre expérience, d'ailleurs, ou que l'on a avec des analysants. Sur les phases qui sont vécues, comment elles sont vécues, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. La question, elle se tranche au niveau de la structure. Évidemment, à partir du moment où on dispose du mathème du discours analytique, on voit qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Dès qu'on est analysant, ça s'écrit S barré à gauche, et donc on sort du préliminaire. Hein. Donc ce point est important, j'y réfléchissais, c'est des considérations un peu épistémiques, si vous voulez. Parce que quand on dit variation, employer cette variante de l'analysant type, on est dans la logique des classes. Hein. L'analysant type, c'est une classe. Bon. Et donc, s'il y a des variantes, il faut, pour parler de variantes, il faut être sûr que ce sont des variantes du type, de l'analysant type. D'où vient le concept de l'analysant type ? Le concept de l'analysant type, selon Lacan, il ne vient pas de la description de l'expérience. Il ne s'infère pas empiriquement des différentes expériences telles que chacun pourrait les raconter. Sinon, on serait dans une épistémologie empiriste. Comme dit Lacan, la structure, ça ne s'apprend pas de l'expérience. La structure, ça se construit. Et une fois construit, effectivement, ça éclaire l'expérience. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, structurellement, l'analysant, si ça a un sens, c'est à la fin des entretiens préliminaires et jusqu'à ce qu'il s'arrête de l'être dans sa cure. Là, il y a une fin plus facile à marquer parce que quand on cesse d'aller parler à son analyste, indépendamment de savoir si la cure est finie ou pas, on n'est plus analysant. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors,
je n'ai pas le droit au joker.
Le joker.
Appelez un ami.
Bon. Alors, oui, concernant cette question de... Enfin, bon, c'est vrai que j'ai quand même... Je pensais beaucoup à la question de l'interprétation. Qui en fait, enfin quand je dis prendre acte, c'est-à-dire au fond prendre le discours de l'analysant tel qu'il se présente et ne pas en rajouter du côté du sens. C'est-à-dire que la réponse qui est de reprendre en fait ce que l'analysant a dit, c'est pas forcément rajouter du sens, mais c'est souligner que à ce moment-là il y a quelque chose, bon, que en tout cas qui paraît suffisamment à souligner pour que l'analyste intervienne. Et c'est en ce sens-là que je parle de l'interprétation, c'est-à-dire c'est pas modifier en fait le discours tel qu'il a été dit. Et c'est dans ce sens-là que, il me semble, le fait de ne pas rajouter du sens permet peut-être à viser quelque chose d'une jouissance. Mais c'est pas, d'abord, c'est pas systématique. C'est pas, enfin, toutes les interprétations ne sont pas forcément... si elles sont soulignées par l'analyse, ça ne veut pas dire que l'analysant les entend ou réagit. Après, c'est toujours dans la question de ces effets, effectivement, qu'on peut constater quelque chose, mais ce n'est pas au moment où ça se passe.
Donc, votre idée, ce serait que, au fond...
C'est une possibilité.
Que l'analyste prend acte du texte ou de quelque chose qui est dans le texte analysant. Mmh. Il ne fabrique pas son propre texte à lui, mais il fait ce qui est un tic des analystes, qui souligne tel mot, qui souligne telle expression, etc.
Mais
ça, c'est très vrai, ça se passe comme ça, partie.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours comme ça, mais au fond... C'est vrai que ce thème...
Ma question ne portait pas là-dessus.
Alors
peut-être que je me suis mal exprimée moi-même. Ma question portait... Parce que l'idée que l'analyste, disons, il respecte le texte analysant. Le travailleur produit son texte et l'analyste peut intervenir dans ce texte. Soit il peut intervenir avec intrusion de signifiant, comme dit Lacan, un autre mode d'intervention, mais il peut aussi intervenir par la coupure, en soulignant, tout ça n'altère pas le texte analysant. Simplement, ce sur quoi je vous interrogeais, c'était que ça faisait apparaître la jouissance. Alors, je vous fais remarquer que quand l'analyste fait ça, il souligne, que fait l'analysant? Il se dit, vous avez souligné ce terme, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est lui qui ramène le sens. C'est une pratique qui tout aussi bien ramène le sens, et d'ici que l'analysant perçoive que peut-être c'était parce que l'analyste pensait qu'il y avait de la jouissance dans ce terme, il y a de longues années qui vont s'écouler.
Non, mais c'est pas qu'il pense que et que l'autre pense que. C'est non, enfin, je trouve qu'il y a pas tant de pensée que ça dans l'histoire. Alors, évidemment, après coup, on pense, on se dit bon, ceci, ça. Mais je trouve que c'est plus des ponctuations. Quand je dis souligner, ça veut dire ce sont des ponctuations, ça a des effets. Mais après, effectivement, on met du sens, l'analyste aussi peut mettre du sens. Je trouve qu'il y a des moments où... alors, c'est vrai que j'ai mis ça en exergue, mais ça ne représente vraiment pas l'ensemble d'une cure. Mais c'est en fait pour essayer aussi de saisir qu'est-ce que c'est qu'un acte. Qu'est-ce que c'est que... C'est aussi, c'est difficile. Enfin bon, je suis embarquée dans... Mais je trouve que ça pose quand même la question. Moi je trouve que ce thème, à un niveau, c'est quand même très intéressant parce que ça pose la question. On parlait des séances préliminaires. Effectivement, à partir de quel moment on estime que parce que là c'est quand même aussi l'analyste qui intervient. À partir de quel moment on estime que à ce moment-là, l'analysant entre dans le discours analytique. À partir de quel moment on considère que on peut interpréter, intervenir, et je trouve que ça interroge tout ça, parce que c'est vrai qu'on... Oui. Mais oui, c'est je Voilà, bon.
D'accord. Bon, on va peut-être voir les questions, d'autres questions. Oui, Françoise, tiens-tu le micro qui est juste devant toi.
Oui, quel serait le lien entre l'analysant et l'hystérisation, enfin, s'il y a un temps? Si on devient analysant quand on rentre dans le discours analytique, à ce moment-là, l'hystérisation, elle est là. Elle est là aussi, si j'ai bien entendu. Le S barré, hein, c'est, est-ce que c'est par le A, hein, enfin, c'est une question. Quel est le lien entre... Est-ce que c'est un temps, l'hystérisation? Je ne sais pas, mais... Bon, enfin, en travaillant récemment, je me suis dit, finalement, je croyais que c'était quelque chose qui arrivait plutôt en fin ou au cours d'eux.
Quoi donc ?
Mais, l'hystérisation. Mais en fait, je me demande si c'est pas quelque chose qui est, quand on rentre dans le discours analytique, l'hystérisation est là.
Oui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les deux intervenants, là, de l'hystérisation ?
Qu'est-ce que vous appelez hystérisation, enfin, un peu plus précisément, parce que
c'est s'intéresser au désir de l'autre.
C'est un thème qui a été très très insistant dans la doxa analytique il y a quelques années.
Hein?
Mais la doxa a tourné, semble-t-il. C'est clair, puisque on parlait de l'entrée comme moment d'hystérisation, quelle que soit la structure du sujet. Et on se demandait, quand on a affaire à un sujet psychotique, est-ce qu'on peut l'hystériser? Voilà des questions qu'on ne se pose plus, comme quoi il y a des bougées de la doxa de groupe, faut bien le dire comme ça. Maintenant, on se demande s'il est devenu travailleur, s'il va vers le réel, si, etc. La jouissance, bien sûr, et comment on la met en évidence. Je crois que... Je ne vais pas parler à votre place, mais...
Non, mais moi, j'ai pas de... Je m'étais jamais posé cette question, peut-être que je l'avais pas entendue.
Mais est-ce que, j'extrapole peut-être, mais est-ce que ça a à voir avec justement ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des séances préliminaires de cette question de faire, parce que la demande prenne forme, c'est-à-dire qu'au fond, qu'il y ait quelque chose d'un désir, c'est la question du désir. Bah, oui, mais donc ça serait à ce moment-là qu'on pourrait dire que l'analysant entre dans le discours analytique, donc devient analysant. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui s'agit d'estimer, de mesurer, de en tant qu'analyste.
L'hystérisation, oui, c'est ça consiste à faire émerger la question du désir. Lacan dit ça très 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 simplement quand il commente son graphe dans Subversion du sujet, quand il dit. Il parle du kevoy, l'analyste renvoie au sujet, c'est l'analyste qui le fait là, hein. Il n'est pas en train de prendre acte. Il renvoie au sujet, à l'entrée, il renvoie au sujet une question sur kevoy, et Lacan dit, il n'y a pas de meilleure façon pour que la question tourne et que l'analysant commence à se demander, mais que me veut-il ? Hein, c'est ça l'hystérisation. C'est assez cliniquement, c'est parlant. Hein, c'est une mise en marche. C'est une mise en marche. C'est l'époque où Lacan commentait le transfert avant d'introduire le sujet supposé savoir. Il commentait le transfert comme lien du désir de l'analyste au désir de l'analysant. Il n'a introduit la notion de sujet supposé savoir que beaucoup plus tard. Hein, ça apparaît pour la première fois l'expression dans le séminaire 11.
Donc ça va de pair. Pour
répondre à la oui, tout à fait. Oui, ça fait tout à fait. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, je me souviens quand on avait discuté du titre « Qu'est-ce qu'un analysant ?», on avait pensé à la poser comme question, mais aussi, si je me souviens bien, c'est parce qu'on a voulu mettre l'accent sur comment on devient, qu'est-ce que ça veut dire devenir analysant.
Oui.
Et donc, vous l'avez évoqué, mais il me semble que peut-être vous n'avez pas, ça me donne cette impression, souligné suffisamment la part de l'analyste dans le devenir analysant. Est-ce qu'on devient analysant parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit ce que vous évoquiez, cette dimension d'un changement entre ce qui était à l'origine et puis ce qu'on rencontre? C'est juste l'analysant, celui qui va devenir analysant, que ça n'aperçoit? Ou est-ce qu'il y a, de la part de l'analyste, quelque chose dans le devenir analysant? Donc, aussi, tu as répondu en partie, Irène, tu as pris une position plutôt de dresser constat de la part de, la, de l'analyste. Attends, attends, je termine. Mais tu as évoqué surtout la question de l'acte du côté de l'analysant.
Parce que l'interprétation, c'est quand même là.
Tu as évoqué l'interprétation, mais quand tu... Bon, tu réponds alors. Donc, tu as parlé de ça. Donc, la question de la part de l'analyste...
Il ne faut pas identifier trop vite acte et interprétation. Encore un autre thème à discuter.
Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, moi, je... Enfin, bon, oui, non, vous avez raison. Tout à fait.
Je n'ai pas de doute de mon côté sur la part de l'analyste, parce que pour moi, c'est quasi une évidence. Il faut qu'il soit présent. Donc, l'analysant, enfin, le sujet devient l'analysant. Et c'est un peu exprès que je n'aurais pas parlé, parce que j'ai voulu accentuer... On parle souvent des analystes, en fait. Et ce n'est pas qu'il ne faut pas en parler, mais j'ai essayé de parler plus du côté de l'analysant. Mais sinon, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut... Voilà. De toute façon, c'est une paire. Ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une position de l'analyste qui réponde.
Voilà. Mais... Moi, ce que j'ai trouvé difficile, et c'est vraiment quelque chose que dans ce séminaire de l'acte, on peut rencontrer, c'est au fond, par exemple, moi j'avais l'idée que l'autre supposait savoir, bah, y avait une espèce d'évidence comme ça que c'était vraiment l'analyste, puisque l'analysant lui supposait un savoir. Et vraiment, dans le séminaire de l'acte, Lacan ne dit pas ça. Au contraire,
mais
il dit...
Dans la proposition non plus.
Non, mais c'est pour ça. Mais oui, mais des choses comme ça, vous voyez, moi, je trouve que c'est peut-être là-dessus que j'ai essayé d'orienter mon travail, bon, très difficilement, mais je trouve que même la question de l'acte, j'avais pas forcément idée que c'était quand même... Parce qu'on dit, justement, bon, bah, l'analysant travailleur, mais quand même, Lacan parle beaucoup de l'acte du côté de l'analyste dans ce séminaire. Alors, bon, ce séminaire, c'est un temps, mais je me dis quand même, c'est un moment... C'est pour ça que je trouve que politiquement, c'est intéressant. C'est quand même un moment où, il pense quand même... Il y a la question du dispositif de la passe, enfin, toutes ces propositions qu'il fait avec ce texte, propositions. Il y a ce séminaire sur l'acte où on retrouve des choses... Enfin, à ce moment-là, il y a tout un passage où il n'y a pas de rapport sexuel et pas encore... disons écrit comme tel, formulé comme tel, et puis il le développe. Qu'on dise, c'est pareil. J'ai trouvé des références, je pourrais en parler, mais je savais pas. Donc je trouve que c'est un séminaire très riche, mais qui, bon, une fois de plus, parce que je trouve que c'est toujours comme ça. En ce qui me concerne, ça remet en question vraiment toujours ce que j'appelais mes idées reçues. Et bah oui, et voilà. Et c'est bon, je trouve que c'est oui. Mis au travail. Quoi.
Vous avez souligné une chose qu'on pourrait reprendre, qui a son importance. Vous avez évoqué la dimension de l'après-coup, l'acte. Il est à lire après coup, mais ça va plus loin que ça. L'acte, dit Lacan, dans le discours à l'EFP, donc on est dans la même époque, un an après, il dit l'acte, se prouve par ses suites, hein, oui. Se mesure à ses suites. Autrement dit, l'acte, il n'est pas subjectivable. On peut pas, c'est pas prendre une décision.
Non, pas du tout.
Alors, bien sûr, il dit c'est un acte de décider de faire une analyse. Bien sûr, c'est un acte au sens faible. Il y a un avant, il y a un après. Donc, on peut dire c'est un acte. Mais attendez, la décision, encore faut-il savoir si après coup, ça a été une décision d'analyse ou pas. Hein ? Donc c'est ensuite, dans les suites, que l'acte s'avère. Alors ça s'applique, ça, à l'acte analytique. L'acte analytique, il s'avère quand il y a une analyse d'analysant. C'est l'analyse de l'analysant qui avère que l'acte était là. Et pour l'entrée de l'analysant dans le dispositif, pareil. C'est s'il fait une analyse qu'on saura que la décision était un acte. Hein ?
Voilà. Mais oui, mais c'est ça.
Donc
c'est
ça,
que...
c'est important quand même, parce que ça devrait éviter les discours qui subjectivent l'acte. J'acte. Vous savez, il faut enlever le
J'acte. Voilà.
Il y a une question.
Oui.
Alors, oui. Ici, une question Barillon. Oui.
Alors, c'est une question pour Irène. Donc, tu t'es questionné pourquoi analysant à la place d'analyser, hein, oui. En partant du succès que le terme de psychanalysant a eu. Simplement, à t'entendre, je me disais que quand même, c'est pas les mêmes places, psychanalysant et psychanalysé, au sens où... je n'ai pas fini ma question, que tu dis déjà non. Non, mais c'est une interrogation que j'ai, puisqu'on on voit bien que analysant, ça commence au début, à l'entrée dans la cure, et ça va jusqu'à la fin. Alors que le terme d'analyser, on ne peut pas dire que analyser, c'est au début de la cure. Analyser, comme Philippe Madé l'a dit, il a utilisé le terme, c'est à la fin. Si on veut utiliser ce terme, c'est à la fin.
Hein. Oui.
Comment on se débrouillait avant, quand on n'avait pas le terme de psychanalysant, pour nommer celui qui était en analyse? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Hein. C'est comment avant, parce qu'on voit bien l'intérêt de l'usage de ce terme, parce que ça permet de désigner celui qui est en analyse du début jusqu'à la fin. Alors que psychanalysé, certainement pas.
Donc c'est, oh ben, on
une,
sait
c'est une question à Irène.
Ah oui.
Je n'ai
parce
pas
qu'elle
la
a
réponse.
Travaillé la question.
Oui, mais
une question pour Philippe Madé.
Ah oui.
Vous avez, vous êtes intéressé à l'entrée, au parcours et à la fin. Donc là, ça porte un peu sur la fin, chute du supposé savoir, des, bon, au moment à l'analyste, le déshabillage de l'analyste du savoir à du supposé. Alors, vous avez fait aucune référence à la question de l'objet A. Est-ce que c'est un parti pris ou pas? Parce que vous avez tout centré. Non mais vous avez posé la question une fois qu'il y a plus le sujet supposé savoir, que reste-t-il? Et là vous avez parlé, vous avez continué sur la question du savoir. C'est plus le même, c'est un savoir y faire avec la fin. Enfin, savoir y faire avec la fin. Je crois que vous avez dit quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez dit un savoir qui anime l'analyste et l'analysant.
Savoir y faire, c'était du côté de l'analyste.
Oui, savoir y faire du côté de l'analyste. Mais à aucun moment, dans ce qui anime, justement, l'objet 1 n'est apparu. Alors, c'est un peu ma question, c'est pour quelle raison?
C'est un peu la même question que Louis.
Alors, oui, par rapport à psychanalyser, eh ben, je réfléchis par rapport à ce que la discussion qu'on a eue là avant. Où, au fond, ce que tu disais dans ton travail, c'est que on dit pas, enfin, c'est rare qu'on dise je suis un analysant. C'est souvent les analystes qui disent bon, j'ai des analysants, mais on se nomme pas.
Non, ma question ne porte pas sur maintenant.
C'est, oui, c'est, oui, je avant, sais, avant, mais est-ce que, est-ce qu'avant, mais justement, la question de la désignation, justement, quand tu parles de désignation, bah. Peut-être qu'on parlait de psychanalyser ou d'analyser, mais ce n'est pas forcément les analysants de l'époque qui se désignaient comme tels. Enfin, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, qu'on ne se désigne pas forcément comme...
Quand même, là, je voudrais faire une nuance. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le vocabulaire. depuis, vos arguments étaient assez convaincants sur le fait que l'analysant ne s'autonome pas analysant. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé dans le vocabulaire qui circule et qui implique que la notion d'analysant est passée dans les esprits, c'est qu'on dit « je m'analyse ». Je m'analyse avec un tel, avec qui s'analyse-t-il ? Oui. Je m'analyse, c'est une expression extrêmement courante. Non, je m'analyse avec. Je m'analyse. Et Lacan le dit. Lacan emploie l'expression. Mais Lacan emploie l'expression. Lacan emploie l'expression à propos de qui ? À propos des analystes de l'IPA. Et il dit que, quelles que soient toutes les critiques qu'il a pu faire, il ne leur dénie pas le nom d'analyste parce qu'il y a des sujets qui s'analysent avec eux. Et ça se dit maintenant couramment. Avec qui ils s'analysent, moi, je l'ai encore dit là, aujourd'hui, et les gens aussi disent « je m'analyse avec un tel ». Et ça, ça veut dire que la notion du work in progress et que c'est l'analysant qui fait le boulot, elle est là quand même. Hein. C'est une remarque de détail. Ouais. Alors, vous voulez répondre à si on en fait ça.
Ça va être une réponse très courte. Je dirais que c'est un parti pris pour éviter la question. Que je ne savais pas très bien traiter. Voilà. Donc, c'est pas. Je ne peux pas en dire grand chose de plus.
Moi, je voudrais. Ah oui, vous aviez demandé la parole, alors attendez. Ah, sur un autre point.
Revenir sur les entretiens
pleins. Ah, d'accord.
Non, mais si.
Ça va pas plus loin.
Ben, moi, je voulais aussi passer à une autre question, donc allez-y.
Reprendre sur les entretiens préliminaires et en particulier sur la fin des entretiens préliminaires. Et donc, vous êtes arrivé dans votre échange à la formulation « on est analysant quand les entretiens préliminaires sont finis ». Ça, ça le place du côté d'analysant, mais dans ma pratique en tout cas et dans ma représentation, c'est l'analyste qui en prend l'initiative. Et c'est une question importante pour moi, c'est à quel moment comment on finit les entretiens préliminaires, à quel moment se fait ce passage-là. Pour moi, c'est une question fréquente dans les contrôles, c'est une question importante. Voilà, si vous pouvez me donner une précision là-dessus. Comment juger de ce moment, du point de vue de l'analyste?
Vous voulez dire quelque chose sur ce point?
Rappelez-moi rapidement. Puis,
prenez le mec.
Je pense que là, il y a des variantes, mais que c'est effectivement, ça ne peut pas être l'analysant tout seul qui décide, qui dise voilà, j'ai terminé, mais. Voilà. Mais par contre, alors, pour répondre plus sérieusement. Je dirais que peut-être un indicateur serait la demande, l'expression de la demande. C'est-à-dire que là, comment elle est accrochée. Et puis comment, de l'analysant. Enfin, de celui qui voudrait entre analyse. Et aussi, comment, à un moment donné, effectivement, il est prêt à rentrer dans le discours, c'est-à-dire qu'à se mettre dans cette... passer la parole à ma droite parce que je pense que...
moi je reprendrai justement ce que j'ai dit là concernant ce franchissement dont parle Lacan. Alors d'un côté, justement, concernant Lacan, il dit oui, on peut parler de franchissement quand l'analysant entre dans le discours analytique, c'est-à-dire finalement que la demande prend forme, et sans doute qu'il y a la question qui est liée au désir, mais par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré tout, et c'est là où justement ça donne vraiment idée de la question de l'inconscient concernant l'acte, c'est qu'il dit quand même aussi que l'acte n'est, malgré tout ça, c'est pas forcément comme ça qu'il définit l'acte. Donc effectivement, c'est pas de l'ordre d'une décision, mais il y a quelque chose quand même qui se produit, qui a été dit, et dont on peut estimer, enfin en tant qu'analyste après, qu'il y a quelque chose d'un désir là qui a pris forme. Ce qu'on disait de... Alors bon, c'est à travers...
Oui. Moi, je voudrais dire, alors puisqu'on posait la question du rôle de l'analyste, il est crucial dans les entretiens préliminaires. Hein, il est... Et évidemment, au niveau, si on fait des enquêtes, les analystes procèdent de façon très diverse, hein, de fait. Mais là, on essaye de s'orienter sur les indications que Lacan nous a données pour en tirer profit. Donc, on ne parle pas d'un tel fait comme ci, un tel fait comme ça. Hein. L'idée quand même de Lacan, c'est que, d'une part, il l'a dit d'ailleurs explicitement, la façon dont l'analyste transmet la règle, ou ne la transmet pas d'ailleurs, dans certains cas, il ne la transmet pas, mais Lacan considérait qu'elle devait être transmise, la façon dont on la transmet, dans quels termes, avec quelle formule, ça donne déjà une idée de comment l'analyste se repère lui-même dans l'expérience. Et ensuite, la façon, ce qu'il attend des propos du postulant analysant, si je puis dire, qu'est-ce qu'il attend des propos de celui-là pour dire « Ok, on commence ». Alors, évidemment, Irène, vous avez évoqué dans vos textes un moment la capacité à associer. Oui, Freud avait, quand il parlait Freud d'un traitement à l'essai, c'était ça. C'était voir est-ce que le sujet est capable d'associer. Ce n'est pas du tout l'idée de Lacan. Lacan ne fait pas associer dans les entretiens préliminaires. On n'est pas dans l'association libre. Elle est après, là. Donc, effectivement, la part de l'analyste est très importante dans les entretiens préliminaires et pour faire produire, justement... Marc, tu voulais...
Oui, justement, c'est ma question portée sur ce point, sur le point de l'entrée dans le discours analytique. Je crois que c'est assez simple et ça sonne juste. Effectivement, l'analysant, c'est celui qui est entré dans le discours analytique. Alors, s'il y est entré... De quel discours est-il sorti et comment s'est fait le passage d'un discours à l'autre ? Parce que finalement, on a toujours cette question intéressante et mystérieuse du changement de discours. Et Colette, tu y as répondu en grande partie, effectivement. Là, je pense, et Louis l'évoquait, je pense que l'analyste a une part essentielle, effectivement. Mais ça ne suffit pas non plus. C'est vrai que... Alors, tu disais l'énoncé de la règle. C'est vrai, là, quand on l'évoque... Mais l'énoncé de la règle se fait à la fin des entretiens préliminaires, pas au départ.
On peut se faire au milieu.
Ou au milieu, mais c'est pas avec l'énoncé c'est de la règle qu'on accueille la demande de guérison. On a quand même un sujet qui vient avec une demande de guérison, oui. Un symptôme, une souffrance, et finalement, qu'est-ce qui fera que cette demande, disons, psychothérapique, puisque le stage a lieu actuellement, que cette demande psychothérapique va entrer dans la structure du discours analytique. Là, il y a quelque chose de préalable qui n'est pas acquis, ni d'un côté, ni de l'autre, d'ailleurs. Même, il y a des sujets qui s'y refusent.
Oui, tout à fait, oui. Oui. D'accord, oui. Moi, je voudrais...
Oui, non, c'est simplement pour... oui, les deux exposés, ça m'a fait penser à la... Je pense que vous l'avez évoqué, la question que Patrick Barillo posait par rapport à l'objet Petita, quand vous avez parlé de la solitude. Parce que justement, dans ces différences qu'on essaye de faire entre une psychothérapie, le discours analytique, il me semblait que Lacan avait évoqué à un moment donné les jeux du bridge, que je n'ai jamais joué, mais il évoquait la place de l'analyste à la place de celui qui fait le mort, c'est ça là. Donc c'est lui qui montre les cartes, apparemment, qui n'a rien à cacher. Et il me semble que c'est la cette position de faire les morts et cette impression qui, pendant les entretiens préliminaires, le sujet va ressentir de qu'il n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais avec un objet, justement, cet objet qui s'incarne en quelque sorte. C'est ça qui va produire l'entrée à quelque chose. Il y a aussi ce qu'il a évoqué dans les temps logiques, quand on regarde l'autre. Vous avez évoqué cette histoire des regards. Je vais voir mon analyste, mais à un moment donné, la disparition, je dirais, en quelque sorte, et ça, c'est un travail. C'est-à-dire le travail, la position de ne pas être un autre pour celui qui vient voir l'analyste, en quelque sorte, que ça ne se passe pas à deux. En quelque sorte, il me semble que l'incarnation de cet objet est un acte qui permet... On peut rater ces entretiens préliminaires et justement que ça revienne une psychothérapie en quelque sorte, du fait que c'est quelque chose qui se passe à deux. Quoi. Donc voilà, en vous écoutant tous les deux, j'avais pensé à cette difficulté justement d'incarner ce qu'on appelle l'objet petit enfant.
C'est-à-dire que quand Lacan dit l'analyste fait le mort, il ne s'agit pas de l'objet petit A. C'est le moment où il a formalisé la cure sans l'objet petit A, qui arrive beaucoup plus tard. Et donc, c'est quand il est à la place du grand autre qui fait le mort. Hein. Quand il est convoqué à la place du grand autre, là, il fait le mort. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le jeu, du grand autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est l'objet A. Donc, c'est des strates à la fois de l'élaboration de Lacan et la conception de ce qu'on fait effectivement dans les entretiens préliminaires. Et
je trouve que par rapport à cette question du grand autre, c'est intéressant que Lacan parle de feinte, par rapport, supposé savoir. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais l'idée que déjà autre supposé savoir, ça concernait quand même quelque chose qui n'était pas vraiment incarné en tant qu'autre. Mais je trouve que rajouter feinte, c'est encore en rajouter du côté méprise, oui, voilà. Je trouve que c'est vraiment...
il a une jolie expression, servant d'un dieu trompeur.
Oui,
voilà. Puisqu'il il n'est pas supposé croire au sujet supposé savoir, mais il se fait le servant. Servant. Oui. Moi, j'aurais voulu revenir sur le thème de l'analysant dans la cure et hors de la cure. Hein, c'est-à-dire l'analysant est-ce barré au travail. Ce que Lacan nous permet de penser, qu'on peut être analysant en dehors de la cure. Lui à la télévision et nous on a tendance à dire maintenant quand on travaille dans l'école. Bon. Alors quelle est la différence? Quelle est la différence? Tous les deux vous avez touché à cette question. À vrai dire vous n'avez pas dit la même chose je crois puisque Irène, vous avez plutôt homogénéisé les deux en disant dans les deux cas c'est le bien-dire. Hein, ils ont en commun l'éthique du bien-dire, l'analysant dans la cure et l'analysant hors de la cure, ce qui est tout à fait juste. Vous avez plutôt dit la position d'analysant. Vous distinguez analysant et position d'analysant, ça crée du malentendu, je trouve. Mais, par exemple, ça vous amène à écrire la position d'analysant exclut la supposition. Alors, si vous dites cette phrase sans entour, ça va, c'est le malentendu assuré. Hein. Mais enfin, bon, c'est pas très important, mais il faut le mettre entre guillemets, peut-être. Finalement, c'est très important, surtout que vous avez terminé sur l'invention et la création. L'analysant dans la cure, comme l'analyste, il est concerné par le savoir. Il veut apprendre quelque chose, savoir quelque chose. Seulement, le savoir qui se développe dans la cure, qui s'aperçoit dans la cure, non seulement ce n'est pas le même parce que ça le concerne lui et pas la psychanalyse en général, mais surtout, c'est un savoir déjà là dans l'inconscient. Un savoir qu'il s'agit de déchiffrer. Bon, de déchiffrer ou de dont on va attraper des bouts. Bon. Alors, tandis que l'analyste Lacan élaborant son séminaire, ou Freud construisant la théorie analytique, ou toute personne qui essaye de penser un peu l'expérience... Enfin, toute personne, non, pas toute personne. Parlons de Freud et de Lacan, ça suffit. C'est un savoir qui n'est pas déjà là. C'est un savoir qui est à construire, hein, qui n'était pas là avant. Avant qu'on ait dit analysant, ce n'était pas là. Et donc, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que Lacan emploie une expression intéressante parlant de Freud et de Lacan en tant qu'analysant, justement. Il dit « ces êtres dont se fait la lettre hein ». C'est-à-dire... il fabrique de la lettre là où il n'y en avait pas. Donc, ça, c'est très, très différent. Alors, l'analysant, on peut dire, est-ce qu'il invente le savoir? S'il invente le savoir, c'est au sens où on dit Christophe Colomb a inventé l'Amérique. Vous savez que maintenant, ça s'emploie comme ça. Christophe Colomb a inventé l'Amérique. On ne dit plus il a découvert l'Amérique, il l'a inventée. Elle était là, quand même. Hein, elle était là. Et il l'a découverte. C'est un peu ça, l'analysant. Oui, tout à fait, oui. Alors que tout ce que Lacan a produit de mathèmes, de nouveaux termes, etc., ça n'était pas là, ça n'était pas là. Donc ça fait, c'est vraiment là, c'est de la vraie de la création. Là, il y a de la création. Là, il y a de la création. Enfin, invention, création. En tout cas, c'est du neuf, c'est de l'inédit. C'est... Je crois que ce point, je sais pas ce qu'est votre idée.
Alors, c'est que j'ai employé cette expression position d'analysant parce que justement je me posais la question comment différencier les deux, c'est-à-dire que l'analysant en cure et celui qui n'est plus en cure. Et alors si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand est-ce qu'on est analysant, c'est-à-dire quand on rentre dans le discours analytique, donc le S barré à droite dans le schéma, on peut pas dire, je me suis dit, on ne peut pas dire ça quand on parle de quelqu'un qui est analysant, qui n'est plus en cure.
Non, oui, d'accord.
Et donc, voilà. Alors, donc on emploie le même terme à chaque fois, mais ça, forcément, ça ne peut pas vouloir dire la même chose, même si c'est le même terme. C'est pour ça que l'expression oui. position d'analysant, pour moi, était plus... j'y voyais plus quelque chose, c'est pour ça.
J'ai bien compris votre distinction, mais l'analysant dans la cure, il est en position d'analysant aussi. Donc l'expression, elle est pas discriminante, en fait.
Oui, alors, voilà. Oui, c'est ça.
En tout cas, c'est pas...
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, pour celui qui n'est plus en cure... Effectivement, et c'est le
non, mais... En tout cas, c'est pas l'idée de Lacan. Il faut relire quand même Télévision, la première partie de Télévision. Il se présente comme parlant, causé par l'objet regard. Hein? Et donc, Bien sûr, exactement, causé par l'objet. Donc, au niveau de la structure, c'est pour ça que j'insiste sur la distinction entre décrire l'expérience et la structure de l'expérience, au niveau de la structure, il n'y a pas de différence. Le discours analytique peut se tenir ailleurs que dans la cure. Le discours analytique, à condition qu'on ait un sujet qui élabore, prenons ce terme un peu général, un sujet qui élabore, causé par un objet. Alors, ce qui diffère, oui, c'est le savoir produit. C'est le savoir produit, certainement, ça, oui. L'analysant, il y a une même structure, ça s'écrit pareil, mais cette même structure ne s'incarne pas de la même façon et ne produit pas la même chose.
C'est l'agent. Voilà.
Oui. C'est-à-dire que les termes eux-mêmes, c'est les mêmes, c'est la même structure, mais donc voilà, je crois que
j'ai plus en tête exactement, mais il y a quand même Lacan qui donne une référence très précise dans un texte qui s'appelle l'allocution. Alors j'ai pas à citer, mais sur justement ce lien entre l'analysant après l'analyse et le symptôme.